Écoutez les programmes de Studio Kalangu. Il est 18h. Le journal en français de ce mercredi 21 octobre 2020, c'est dans une présentation de Nefissa Adam. Les titres. Les blogueurs du Niger formés à Niamey par la Maison de la Presse sur la loi sur la cybercriminalité, une loi qui concerne une grande partie des publications sur les réseaux sociaux mais mieux connue par les internautes. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé hier à la pose de la première pierre de la cimenterie de Kao de la région de Tawa. Les détails dans quelques instants. À suivre en partie magazine de ce journal, les impacts de la pandémie de la COVID-19 sur les secteurs éducatifs du Niger durant les 2 mois de suspension. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre du jugement sur la mort de l'élève officier d'actif de l'armée de l'air, Chamsoudine Talata Chombiano, survenu en décembre 2018 à Niamey pendant sa formation dans le centre d'instruction de Tonibia, les élèves officiers mis en cause et arrêtés ont tous été acquittés hier à l'issue du procès qui a débuté le mercredi 14 octobre dernier au tribunal militaire de Niamey. L'information nous a été confirmée par un proche du défunt. Pour rappel, il y a de cela 2 ans, le corps sans vie du jeune officier Chamsoudine, âgé de 22 ans, a été présenté à l'hôpital de Niamey pour l'établissement de l'acte de décès. Son corps présentant alors des signes de sévices corporels, sa famille a posté sur les réseaux sociaux des images insoutenables du jeune pilote. S'en était suivie une vague de condamnations sur les réseaux sociaux et les médias. La série de formation des médias sur la promotion du dialogue politique et le journalisme sensible au conflit en période électorale, initiée par la Maison de la Presse, se termine avec celle des blogueurs en cours à Niamey. Selon le secrétaire général de la Maison de la Presse, l'objectif est d'outiller les utilisateurs des réseaux sociaux, notamment sur la loi sur la cybercriminalité au Niger. Sahiru Issoufou est au micro de Moussa Hassan.
La Maison de la Presse et le PAGOG entendent outiller les professionnels des médias et le blogueur sur des valeurs axées sur la promotion du dialogue politique et des valeurs qui concourent à la résolution des conflits et à la prévention même de ces conflits pendant la période électorale. La dernière communication a porté sur le cadre juridique de l'exercice de la profession du journalisme. Mais avec le blogueur, comme il n'y a pas de texte assez spécifique qui règle la question des réseaux sociaux, nous avons estimé qu'il fallait parler de la loi sur la cybercriminalité. Une loi qui n'est pas très bien connue, mais qui concerne en grande partie les publications sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi on avait remplacé l'ordonnance 035 qui porte sur la liberté de la presse avec la loi sur la cybercriminalité afin que les blogueurs puissent vraiment s'approprier cette loi et savoir comment ils peuvent faire leurs publications sans vraiment entacher les libertés d'autres.
Je vous l'annonçais dans les titres, la construction de la cimenterie de Kao, département de Tchintabaraden, région de Tawa, et la réhabilitation de la route Kao-Tchinta a été lancée hier par le président de la République Issoufou Mahamadou. Selon le maire de Kao, la construction de cette usine, dont le coût est estimé à 160 milliards de francs CFA, permettra aux jeunes de la commune de trouver des emplois. Ahmed Goman est joint au téléphone par Alamine Ouachar.
Est un coût de travaux équivalent à 160 milliards et elle va générer des emplois permanents. 314 emplois permanents seront créés. Ceci permettra aux jeunes d'avoir des emplois au niveau local et va du coup diminuer le chômage des jeunes et permettra aussi de freiner la migration des jeunes vers les pays limitrophes. Vraiment, l'implantation ou la pose de la première pierre de la cimenterie de Kao est un grand projet qui va booster l'économie de la commune, l'économie du département, au-delà même l'économie de la nation. Il y a un autre événement aussi, on a procédé à la pose de la pierre pour la réhabilitation de la route Mararabaka-Ouchenta. Ces deux grands projets vont se marier. La route va venir compléter. Le budget communal sera rehaussé. D'où les investissements seront créés et la vie va s'améliorer.
De la ville de Dosso, le transport urbain avec les tricycles appelé communément Adiretosahou est l'activité à laquelle s'adonnent certains jeunes, et ce pour éviter l'oisivité et lutter contre le chômage. Notre correspondant à Dosso est allé à leur rencontre. Voici son reportage.
Dans la ville de Dosso, les transports urbains avec les tricycles appelés communément ADD Tassoukou a commencé en 2014. Aujourd'hui, selon ces transporteurs de tricycles que nous avons rencontrés, plus de 400 jeunes pratiquent cette activité.
J'ai choisi ce métier parce que j'ai compris que c'est mieux que le chômage. Aucun métier ne dépasse celui que tu fais pour satisfaire tes besoins quotidiens.
Tu peux sortir à 6h du matin, donc juste après la prière, et avant 10h, tu as les versements.
La population de Dosso, notamment les femmes, apprécient la présence de ces taxis à trois roues qui leur facilitent le déplacement dans la ville à moindre coût.
Moi, je prends les tricycles communément appelés ADDTA. Ils nous prennent à 200 francs CFA. Tout d'abord, ce qui nous pousse à prendre les tricycles, il y a de la discrétion. Dedans, tu es protégé du soleil et tu n'es pas collé au chauffeur. Si tu es dans les tricycles, c'est comme si tu es dans un véhicule.
Selon Suleiman Baraji, le président du syndicat des conducteurs de tricycles de Dosso, l'activité apporte beaucoup aux jeunes. Cependant, certains rencontrent des problèmes avec les propriétaires des véhicules.
Dans une ville où il y a le tricycle comme moyen de transport, c'est vraiment un plus. Mais les difficultés que les jeunes rencontrent dans ce métier, c'est que quelqu'un peut te confier son tricycle pour travailler et te le retirer après 6 mois seulement pour le confier à un autre.
Les jeunes de Dosso ont bien embrassé le métier pour lutter contre le chômage.
C'était plutôt un reportage réalisé par notre correspondante à Dosso, Nana Hadiza Hassana. L'école primaire Kourmi de Dakoro, région de Maradi, a été créée en 2002, mais jusqu'à ce jour, elle ne dispose pas d'un point d'eau, selon le directeur, pour les quelques mille élèves de cet établissement. Cette infrastructure est cruciale pour démarrer l'année scolaire dans les bonnes conditions d'hygiène. Abou Zeidi Abdou est au micro d'Adamu Oumarou.
Il n'y a pas un projet qui tient comme le nôtre. Regardez bien, l'école a été créée en 2002. Ça fait 18 ans. Regardez comment les gens s'y prennent pour construire les classes. Même en dur. Hein. Si ce n'est pas que l'année a été une année pluvieuse, il y a eu des dégâts, mais vous serez très bien surpris. Nous tendons encore la main vers les autorités de soutenir ce projet-là. Le manque de tables surtout, c'est ça qui est crucial. Et l'école là a plus de 1000 et quelques élèves, mais il n'y a pas de point d'eau. En cette situation de corona, rien que pour pouvoir ravitailler les classes en eau, pour pouvoir effacer les tableaux, assurer l'hygiène. C'est pas facile, si possible, vraiment, il faut intervenir.
Retour ici à Niamey où les inondations ont touché plusieurs familles, dont celles comportant des scolaires, afin d'aider les enfants des sinistrés recasés dans le Kangamou du 5e arrondissement de Niamey. Une école a été créée. Pour l'instant, l'établissement scolaire manque encore d'infrastructures et l'heure est au recrutement des élèves. Écoutons la directrice de l'école, Amine Abdou, au micro de Habibou Garba.
On a prévu 8 classes, 2 pour les jardins d'enfants et 6 pour les primaires. Il y a les sinistrés, mais on n'a pas un nombre fixe des élèves, mais quand même, on est en train d'avoir à peu près une centaine. Nous, on veut l'effectif. Donc, on est en train d'écrire si on a eu l'effectif total, c'est bon. Et dans les cas échéants, même les enfants du quartier, on a besoin. Au niveau des primaires, chaque classe ne doit pas dépasser 60 élèves et au niveau des jardins, 42 élèves. C'est une école, on a besoin donc de matériaux pour commencer. Premièrement, on a besoin des classes, on a besoin des tables, on a besoin des bureaux, on a besoin des armoires, on n'a rien pour débiter des camps.
1,7 milliard de dollars ont été annoncés par les bailleurs de fonds au cours de la conférence interministérielle virtuelle conjointement organisée hier mardi 20 octobre 2020 par l'ONU, le Danemark, l'Allemagne et l'Union européenne. Un fonds pour répondre à l'urgence humanitaire dans le Sahel central, souligne l'Organisation des Nations Unies. Le point avec Rabiatou Mekanou.
Ce 1,7 milliard de dollars permettra, selon l'ONU, d'accroître l'aide humanitaire vitale fournie à des millions d'habitants au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Une fois débloqués, les fonds permettront d'aider environ 10 millions de personnes pour le reste de l'année 2020 et jusqu'en 2021 en matière d'alimentation, de services de santé, d'eau et d'assainissement, de logement, d'éducation et de soutien aux victimes de violences basées sur le genre. Dans la communication du Niger au cours de la table ronde, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, OCHA, a indiqué qu'au Niger, en 2020, le nombre de personnes ayant besoin d'assistance humanitaire est passé de 2,9 à 3,7 millions en l'espace de 6 mois, élevant ainsi le budget requis pour la réponse à plus de 430 millions d'euros. Par ailleurs, les conflits, le changement climatique, la faible gouvernance et l'inégalité hommes-femmes freinent les populations et le progrès au Sahel, a déclaré le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, lors de cette conférence. Néanmoins, nous pouvons contribuer à renverser la tendance en fournissant un soutien international plus important, mieux équilibré entre sécurité, aide d'urgence et développement à long terme, a-t-il ajouté. Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée. Et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
À présent, le magazine de ce journal, l'année scolaire 2019-2020, a été interrompue à cause du coronavirus. Presque 2 mois durant, les élèves étaient entre l'attente d'une reprise des activités et la crainte d'une année blanche. Au niveau de certains promoteurs d'école, ça a donné lieu à des recherches d'innovation pour sauver l'année. Les détails dans ce reportage d'Olivier Assogbavi.
Au Niger, la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19 a impacté tous les secteurs, comme partout ailleurs dans le monde. Celui de l'éducation non plus n'a pas été épargné. Les établissements scolaires, professionnels et supérieurs sont restés fermés plus de 2 mois. C'est une des mesures prises par le gouvernement nigérien pour limiter la propagation de la maladie. Cette longue attente n'a pas été facile pour les apprenants. Comment ont-ils vécu ces moments de pause où il faut forcément rester à la maison?
J'avais pris ça parce que je me suis dit, mais si on va pas à l'école, comment est-ce qu'on va pouvoir terminer l'année? Et mon seul souci, c'était de reprendre la classe. Mais bon, finalement, on a participé au cours en ligne. Après, on a continué. Ça s'est très bien passé. On a pu passer le cap.
Effectivement, c'est un peu compliqué de vivre avec ses parents pendant les temps de confinement parce qu'on est parti pas à l'école. Ça a été vraiment un peu difficile, mais on s'est fini par s'habituer. Finalement, ça s'est bien passé, merci.
À être toujours à la maison, dans ta chambre, tu ne fais rien, il n'y a que le portable, il y a des gens, ils n'ont même pas de téléphone. Vraiment, psychologiquement, il y a des gens, peut-être, ils ont même peut-être cherché à être fous. Et vraiment, c'est compliqué de vivre avec les parents, surtout à un certain âge, à l'âge de tes adolescents. C'est vraiment, c'est compliqué.
La vision des responsables d'école est tout autre. Certains d'entre eux estiment que c'est le moment idéal d'amorcer une nouvelle stratégie d'éducation et de développement. Pour Kader Kane, le promoteur de l'Université africaine de développement EDU, cette crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 aurait pu être une opportunité pour certaines initiatives.
Cette crise est vraiment une opportunité unique qui a secoué les gens et qui a permis à ceux qui voulaient regarder l'avenir différemment de s'inscrire dans une logique de progrès. Et ça a ouvert des dimensions qu'on ne pouvait pas considérer avant. Tout le monde parlait du online learning avant Covid, mais on en parlait comme d'un ovni. Mais maintenant, tout le monde regarde ça très très sérieusement et on se rend compte qu'à l'école, que ce soit public ou privé, et que maintenant, avec Covid, on se rend compte que finalement, on peut rendre la connaissance disponible à tout le monde, d'où qu'il soit, quelle que soit l'heure.
La crise de la Covid-19 reste d'actualité. Cependant, pendant cette période de rentrée scolaire, le strict respect des gestes barrières est le défi pour les acteurs de l'éducation.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, le forum de studio Kalangou qui porte aujourd'hui sur les défis et les perspectives de la prise en charge du paludisme chez les femmes enceintes et les enfants au Niger. Et c'est avec Fatih Zakari.